Le désespéré, chapitre 46. On s'aperçut un jour, il y a 300 ans, que la croix sanglante avait trop longtemps obombré la terre. Le déballage de luxure qu'on a voulu nommer la Renaissance venait de s'inaugurer, quelques pions germaniques ou cisalpins ayant divulgué qu'il ne fallait plus souffrir. Les 1000 ans d'extase résignée du Moyen-Âge reculèrent devant la croupe de Galatée. Le XVIe siècle fut un équinoxe historique, où l'idéal, bafoué par les giboulées du sensualisme, s'abattit enfin, racines en l'air. Le spirituel christianisme, sabordé dans ses méninges, saigné au tronc des carotides, vidé de sa plus intime substance, ne mourut pas, hélas. Il devint idiot et déliquescent dans sa gloire percée. Ce fut une convulsion terrible pendant 100 ans, accompagnée d'un infiniment inutile et lamentable rappel des âmes. Notre circulante sphère parut rouler au travers des autres planètes comme un arrosoir de sang. Mais le martyr même ayant perdu sa vertu, la vieille bourbe originelle fut réintégrée triomphalement. Toutes les portes des étables furent arrachées de leurs gonds, et l'universelle porcherie moderne commença son braineux exode. Le christianisme, qui n'avait su ni vaincre ni mourir, fit alors comme tous les conquis. Il reçut la loi et paya l'impôt. Pour subsister, il se fit agréable, huileux et tiède. Silencieusement, il se coula par le trou des serrures, s'infiltra dans les boiseries, obtint d'être utilisé comme essence onctueuse pour donner du jus aux institutions et devint ainsi un condiment subalterne que tout cuisinier politique put employer ou rejeter à sa convenance. On eut le spectacle inattendu et délicieux d'un christianisme converti à l'idolâtrie païenne, esclave respectueux des conculcateurs du pauvre et souriant acolyte des phallophores. Miraculeusement édulcoré, l'ascétisme ancien s'assimila tous les sucres et tous les onguents pour se faire pardonner de ne pas être précisément la volupté, et devint, dans une religion de tolérance, cette chose plausible qu'on pourrait nommer le catinisme de la piété. Saint François de Sales apparut, en ces temps-là, juste au bon moment, pour tout enduire. De la tête aux pieds, l'église fut collée de son miel, aromatisée de ses séraphiques pommades. La société de Jésus, épuisée de ses 3 ou 4 premiers grands hommes et ne donnant déjà plus qu'une vomitive ressucée de ses apostoliques débuts, accueillit avec joie cette parfumerie théologique où la gloire de Dieu définitivement s'achalanda. Les bouquets spirituels du prince de Genève furent offerts par de caressantes mains sacerdotales aux explorateurs du Tendre, qui dilatèrent aussitôt leur géographie pour y faire entrer un aussi charmant catholicisme. Et l'héroïque Moyen-Âge fut enterré à 10 000 pieds. On est bien forcé d'avouer que c'est tout à fait fini maintenant, le spiritualisme chrétien. Puisque depuis 3 siècles, rien n'a pu restituer un semblant de verdeur à la souche calcinée des vieilles croyances. Quelques formules sentimentales donnent encore l'illusion de la vie, mais on est mort en réalité, vraiment mort. Le jansénisme, cet infâme arrière-suin de l'émonctoire calviniste, n'a-t-il pas fini par se pourlécher lui-même avec une langue de jésuite sélectivement obtenue? Et la racaille philosophique n'a-t-elle pas fait épouser sa progéniture aux plus hautes nichées du gallicanisme? La terreur elle-même, qui aurait dû, semble-t-il, avoir la magnifiante efficacité des persécutions antiques, n'a servi qu'à rapetisser encore les chrétiens qu'elle a raccourcis. Pour sa peine d'avoir égorgé la simple colombe qui planait dans les cieux d'or des légendes, l'art perdit ses propres ailes et devint le compagnon des reptiles et des quadrupèdes. Les extracorporelles transfictions des primitifs dévalèrent, dans l'ivresse charnelle de la forme et de la couleur, jusqu'aux vierges de Pétrin de Raphaël. arrivé à cette brute de suavité stupide et de fausse foi, l'esthétique religieuse fit un dernier bond prodigieux et disparut dans l'irrévocable liquide que de séniles générations catholiques avaient sécrété. Aujourd'hui, le Sauveur du monde crucifié appelle à lui tous les peuples, à l'étalage des vitriers de la dévotion. Entre un évangéliste coquebin et une mère douloureuse trop avancée. Il se tord correctement sur de délicates croix, dans une nudité d'hortensia pâle ou de lilas crémeux, décortiqué aux genoux et aux épaules, d'identiques plaies vineuses exécutées sur le type uniforme d'un panneau crevé. « Genre italien », affirment les marchands de mastic. Le genre français, c'est un Jésus glorieux, en robe de brocart pourpré, entr'ouvrant, avec une céleste modestie, son sein, et dévoilant du bout des doigts, à une visite andine enfarinée d'extase, un énorme cœur d'or couronné d'épines et rutilant comme une cuirasse. C'est encore le même Jésus plastronné, déployant ses bras pour l'hypothétique embrassement de la multitude inattentive. C'est l'éternelle Vierge sébacée, en proie à la même recette de désolation séculaire, tenant sur ses genoux non seulement la tête, mais le corps entier d'un minable fils, décloué suivant de cagneuses formules. Puis, les innumérables immaculées conceptions de Lourdes, en première communiante azurée d'un large ruban, offrant au ciel, à main jointe, l'indubitable innocence de leur émail et de leur carmin. Enfin, la tourbe polychrome des subalternes élus. Les saints Joseph, nourriciers et frisés, généralement vêtus d'un tartan rayé de bavure de limace, offrant une fleur de pomme de terre à un poupon bénisseur. Les saints Vincent de Paul en réglisse, ramassant, avec une allégresse réfrénée, de petits monstres en stéarine, pleins de gratitude. Les saints Louis de France, ingénus, porteurs de couronnes d'épines sur de petits coussins en peluche. Les saints Louis de Gonzague, chérubinement agenouillés et cirés avec le plus grand soin, les mains croisées sur le virginal surplis, la bouche en cul de poule et les yeux noyés. Les saints François d'Assise, glauques ou céruléens, à force d'amour et de continence, dans le pain d'épices de leur pauvreté. Saint Pierre, avec ses clés, saint Paul avec son glaive, sainte Marie-Madeleine avec sa tête de mort, saint Jean-Baptiste avec son petit mouton, les martyrs palmés, les confesseurs mitrés, les vierges fleuries, les papes aux doigts spatulés d'infaillibles bénédictions, et l'infini cohue des pompiers de chemin de croix. Tout cela conditionné et tarifié sagement, confortablement, commercialement, économiquement. Riches ou pauvres, toutes les paroisses peuvent s'approvisionner de pieux simulacres en ces bazars, où se perpétue, pour le chaste assouvissement de l'œil des fidèles, l'indéracinable tradition raphaélique. Ces purgatives images dérivent, en effet, de la grande infusion détersive des madonistes ultramontains. Les avilisseurs italiens du grand art mystique furent les incontestables ancêtres de ce crépi. Qu'ils eussent ou non le talent divin qu'on a si jobardement exalté sur les lyres de la rengaine, ils n'en furent pas moins les matelassiers du lit de prostitution, où le paganisme fornicateur vint dépuceler la beauté chrétienne. Et voilà leur progéniture. La dispute du Saint-Sacrement devait inéluctablement aboutir, en moins de 3 siècles, à l'émulation fraternelle des plâtriers de Saint-Sulpice, qui ferait aujourd'hui paraître orthodoxe et sainte la plus sanguinaire iconoclastie. Et la littérature est à l'avenant. Ah! La littérature catholique, c'est en elle surtout que se vérifie jusqu'à l'éblouissement le stupre inégalable de la décadence. Son histoire est d'ailleurs infiniment simple. Après un tas de siècles pleins de liberté et de génie, Bossuet apparaît enfin, qui confisque et cadenasse à jamais, pour la gloire de son calife, dans une dépendance ergastulaire du sérail de la monarchie, toutes les forces génitales de l'intellectualité française. Ce fut une opération politique assez analogue aux précédents élagages de Louis XI et de Richelieu. Ce qu'on avait fait pour les vassaux redoutés du roi très chrétien, l'aigle domestiqué du diocèse de Meaux l'accomplit pour la féodalité plus menaçante encore de la pensée. À dater de ce coupeur, silence absolu, infécondité miraculeuse. Toute philosophie religieuse dut se configurer à la sienne, et l'on a vu cet inconcevable sacrilège d'un immense clergé, le cul par terre, sur l'hostie sainte, et la tête perdue dans le bas-vallon de sa soutane, adorativement prosterné devant une perruque pourrie, en obéissance posthume à la consigne épiscopale d'un valet de cour. Cela pendant 200 ans, depuis 1682 jusqu'à nos imbéciles jours. L'abortive culture des séminaires n'atteignit pas cependant du premier coup son solstice d'impuissance. Il fallut que l'hostilité grandissante des temps modernes fit comprendre, peu à peu, à cette milice, la nécessité d'être couarde et la sublime sagesse de décamper en jetant ses armes aux pieds de l'ennemi. À chaque fois que l'impiété se montrait plus insolente ou l'antagonisme philosophique mieux équipé, l'enseignement religieux se rétrécissait d'autant et le sacerdoce rentrait ses cornes. Le télescope théologique se rapetissait en avalant ses tubes, dans l'inexpugnable espérance de n'avoir plus d'étoiles à découvrir. Alors, dans la pénombre des garennes apostoliques, sous la plafonnante envergure de lois gallicanes, on pâturait voluptueusement la moisissure du vieux schisme archi-décédé. Toute la tradition chrétienne étant réputée tenir dans les tomes appareillés du sublime évêque, et celui-là même résumant l'Église universelle en son ombilique, puisqu'il avait fallu qu'il en fît un tapis de pied pour son royal maître. Qu'avait-on besoin d'autre autorité, et que pouvait tenter après cela l'esprit humain démonétisé? La rature devint infinie. Tout ce qui s'est accompli depuis le XVIIe siècle y passa. La pédagogie catholique, pour se châtier d'avoir accordé naguère une estime folâtre à la créature de Dieu, décida de se cantonner éperdument et à jamais dans le catafalque du grand siècle. Donc, défense absolue d'écrire autre chose que des imitations de ce corbillard, et fulminant anathème contre la plus obscure velléité de s'en affranchir. La plus inouïe des littératures est résultée de ce blocus. C'est à se demander vraiment si Sodome et Gomorre, que Jésus, dans son évangile, a déclaré « tolérables », ne furent pas saintes et d'odeur divine en comparaison de ce cloaque d'innocence. Le grand jour approche. La vie n'est pas la vie. Le Seigneur est mon partage. Où en sommes-nous? L'éclair avant la foudre, l'horloge de la passion, le ver rongeur, goutte de rosée, pensez-y bien, le beau soir de la vie, le rematin de la vie, au ciel on se reconnaît, l'échelle du ciel, suivez-moi et je vous guiderai, la manne de l'âme, l'aimable Jésus, que la religion est donc aimable, plaintes et complaisances du Sauveur, la vertu paraît de tous ses charmes, Marie je vous aime, Marie mieux connue, le catholique dans toutes les positions de la vie, etc. Tels sont les titres qui sautent à l'œil, aussitôt qu'on regarde une boutique de livres dévots. Et il ne faudrait pas se hâter de croire à d'insignifiantes plaquettes. L'aimable Jésus, à lui seul, a 3 volumes. La bêtise de ses ouvrages correspond exactement à la bêtise de leurs titres. Bêtise horrible, tuméfiée et blanche. C'est la lèpre neigeuse du sentimentalisme religieux. l'éruption cutanée de l'interne purulence, accumulée en une douzaine de générations putrides qui nous ont transmis leur farce. Une inqualifiable librairie de la rue de Sèvres vend ceci, par exemple. Indicateur de la ligne du ciel. Un tout petit papier de la dimension d'un paroissien pour y être inséré comme une pieuse image. La première page offre précisément la vue consolante d'un train de chemin de fer sur le point de s'engouffrer dans un tunnel au travers d'une petite montagne semée de tombes. C'est le tunnel de la mort, au-delà duquel se trouve le ciel, l'éternité bienheureuse, la fête du paradis. Ces choses sont expliquées en trois pages minuscules de cette écriture liquoreusement joviale que le journal Le Pèlerin a propagé jusqu'aux derniers confins de la planète et qui paraît être le dernier jus littéraire de la saliveuse caducité du christianisme. On prend son billet d'aller, sans retour, au guichet de la pénitence, on paie en bonnes œuvres qui servent en même temps de bagages. Il n'y a pas de wagon-lit, et les trains les plus rapides sont précisément ceux où l'on est le plus mal. Enfin, deux locomotives, l'amour, en tête, et la crainte, en queue. En voiture, messieurs, en voiture! Le bienveillant opuscule nous laisse malheureusement ignorer si les dames sont admises, s'il leur est accordé de faire un léger persil, ou s'il est loisible d'organiser des bonnetots, comme dans les trains de banlieue. Ce candide blagoscope n'a l'air de rien, n'est-ce pas? C'est le hoquet de l'agonie pour la foi chrétienne, d'abord. Ensuite, pour toute la spiritualité de ce monde qu'elle a engendré, dont elle est l'unique substrat, et qui ne lui survivra pas un quart d'heure. Mais que penser d'un clergé qui tolère ou encourage cette pollution du troupeau qu'on lui a confié, qui prend pour de l'humilité l'enfantillage du crétinisme le plus abject, et que la plus timidement conjecturale hypothèse de l'existence d'un art moderne transporte d'indignation? Retranchés dans les infertiles glaciers du siècle de Louis XIV, les plus hautes têtes contemporaines ont passé devant lui, sans mieux obtenir qu'un outrage ou une dédaigneuse constatation. Des écrivains de la plus curative magnitude se sont offerts pour infuser un peu de sang jeune à la carcasse desséchée de leur aïeul. Ils en ont été reniés, maudits, placardés d'immondices. C'est vous qui êtes centenaires et décrépits, leur crie-t-elle de sa gueule vide. Et le seul grand artiste qui ait honoré sa boutique depuis 30 ans, Jules Barbet d'Orvilly, est mis au pilon sur un ordre formel de l'archevêché de Paris. Il est vrai qu'elle a ses grands écrivains, l'Église gallicane tombée en enfance. Elle arbore, par exemple, au plus haut de sa corniche, un évêque non moindre que le schismatique Dupanloup, dont les écœurantes grisailles sur l'éducation la font clignoter comme si c'était des torrents de pourpre. Ce porte-mitre, qui fut la honte de l'épiscopat le plus médiocre qu'on ait jamais vu, est considéré comme un porte-foudre intellectuel par ceux-là même qui méprisent l'étonnante bassesse de son caractère. « De pavone lupus factus », disait-on à Rome pendant le concile, en décomposant le nom de mademoiselle sa mère. On a beau savoir l'insolence tyrannique et l'incurie pleine de faste de ce pasteur aux 12 vicaires généraux, qui ne put jamais résider dans son diocèse, on a beau connaître la turpitude de ses intrigues politiques et l'immonde hypocrisie du révolté qui trahissait l'Église universelle, en protestant de son désir filial de ne pas exposer le pape à l'humiliation d'un vote incertain, n'importe, on le vénère comme un maître, et la dysenterie littéraire de ce trissotin violé, dont le plus infime journaliste hésiterait à signaler les livres, passe dans le monde catholique pour le débordement du génie. Infiniment en dessous de ce prélat, resplendissent comme elles peuvent des améthystes inférieurs et de subalternes crosses. Les Landriot les gerbets, les ségures, les mermillots, les labouiris, les frépelles. Infertiles époux de leurs églises particulières, et glaireux amants d'une muse en fraise de veau qui leur partage ses faveurs. Puis des soutaniers sans nombre, les gaumes, les gratteries, les pérèves, les chocams, les martins, les bottins, les huguets, les noirlieux, les doucets, les perdreaux, les crampons, tout un fourmillement noir sur la rhétorique décomposée des siècles défunts. On peut en empiler 50 000 de ces cerveaux et faire l'addition. Le total ne fournira pas l'habillement complet d'une pauvre idée. Du côté des laïcs, on exhibe à l'admiration du bon fidèle un assortiment considérable de cuistres guindés comme des pendus et arides comme les montagnes de la Lune, tels que Poujoula, Montalembert, Ozanan, Falou, Cochin, Nettement, Nicolas, Aubineau, Léon Gautier, historiens ou philosophes, hommes politiques ou simples conférenciers. C'est la voie lactée du firmament littéraire. Ces roussins de l'esthétique religieuse ont confisqué la pensée humaine et l'ont coiffé dans la geôle obscure des petites convenances et des solennelles rengaines du grand siècle. Nul n'est admis à subsister sans leur permission. Et le plus grand art qui fut jamais, le roman moderne, en qui s'est résorbée toute conception, est jugé comme rien du tout, quand ils apparaissent. Mais le phénix d'entre ces volailles, c'est Henri Lasserre, le Benjamin du succès. Il devient inutile de regarder les autres, aussitôt que ce virtuose entre en scène, puisqu'il résume en sa personne l'onction des pontifes, le pédantisme chenu des hauts critiques et la graisseuse faconde des hagiographes. Il ajoute à ses dons si rares le surcroît tout personnel d'une suffisance de gascon à décourager toutes les Garonnes. C'est un commis voyageur dans la piété, un gaudissard du miracle, qui place mieux que pas un ses petites guirlandes virginales en papier d'azur. Aussi, la plus incontinente fortune s'est hâtée d'accourir vers cet audacieux accapareur qui débitait la Vierge Marie dans les boutiques et dans les marchés. Il n'a fallu rien moins que le triomphe presque divin de Louis Veuillot pour contrebalancer un tel crédit. Et le pur contemplatif Ernest Hélot est mort, ignoré, dans le resplendissement de leurs deux gloires. Il est vrai encore que la même main rémunératrice retient, sur le cœur fossile de cette église hantée du néant, le vétuste Pont-Martin, rossignol de catacombes, dont les nuchats réfrigèrent opportunément les préhistoriques ardeurs. Il n'est pas moins véritable qu'on ramasse à la bouche du collecteur, où il sophistiquait le guano, un Léon Taxile, désormais adjudant de Dieu et tambouriné prophète. Enfin, les pasteurs des âmes fertilisent de leur bénédiction la bonne presse, instituée par Louis Veuillot pour l'inexorable déconfiture des établissements de bains de la pensée. Après cela, porte close. Haine, malédiction, excommunication et damnation sur tout ce qui s'écartera des paradigmes traditionnels. Le clergé saint fait le peuple vertueux, a dit un homme puissant en formule. Le clergé vertueux fait le peuple honnête. Le clergé honnête fait le peuple impie. Nous en sommes au clergé honnête et nous avons des prédicateurs tels que le P. Montsabré. On a fait à ce misérable la réputation d'un grand orateur. Or, ce piètre thomiste, cet écolâtre exaspérant, systématiquement hostile à toute spontanée illumination de l'esprit, n'a ni une idée, ni un geste, ni une palpitation cordiale, ni une expression, ni une émotion. C'est un robinet d'eau tiède en sortant, glacé quand elle tombe. Et il lui faut toute une année pour nous préparer ses douches. Il se trouve des naïfs que cette vacuité stupéfie. Mais c'est comme cela qu'on les fabrique tous, depuis longtemps, les annonciateurs du Verbe de Dieu. une glaire suspicienne qu'on se repasse de bouche en bouche depuis 200 ans, formée de tous les mucus de la tradition et mélangée de bile gallicane recuite au bois flotté du libéralisme, une morgue scolastique à défrayer des millions de cuistres, une certitude infinie d'avoir inhalé tous les souffles de l'Esprit Saint et d'avoir tellement circonscrit la parole que Dieu même, après eux, n'a plus rien à dire. Après cela, l'intention formelle, quoique inavouée, de n'endurer aucun martyr et de n'évangéliser que très peu de pauvres, mais une condescendante estime pour les biens terrestres qui refraine en ses apôtres le zèle chagrin de la remontrance et les retient de contrister l'opulente bourgeoisie qui pavonne au pied de leur chair. Tout juste la dose congrue, presque impondérable, de bave amère sur les délicates fleurs du grand livre, pour lesquelles fut inventée la distinction laxative du précepte et du conseil. Enfin, l'éternelle politique régénératrice, l'inamovible gémissement sur les spolations de la libre pensée et l'incommutable anxiété de péroraison sur l'avenir présumé de la « chère patrie ». Quand on entend autre chose, c'est qu'on a la joie d'être sourd ou l'irrévérencieuse consolation de dormir. Le professeur Montsabré est incontestablement le sujet le plus réussi et les bonnes maisons où se conditionne l'article travaillent présentement à lui manufacturer d'innombrables émules. Il y a bien aussi un autre courant qu'il faudrait appeler didonien, où la médiocrité d'âme n'est pas moindre, ni le génie plus absent, car ils sont de divers paillons, les bateleurs, dans l'ordre dominicain, tel que l'a confectionné ce trombone libérâtre de la Cordère. Ils ont tous, plus ou moins, la nostalgie du boniment. Mais le didon, qui ne se satisfait pas d'être une bouche du néant et qui va prostituant sa robe de moine sur les tréteaux du cabotinisme international, nous sortirait du clergé honnête pour nous mener droit aux soutaniers apostats ou schismatiques, ce qui serait évidemment moins décisif, comme sputation à la face endurante du Christ. Quant aux autres serviteurs de l'autel et à la masse entière des fidèles, c'est inexprimable et confondant. On se serre, on se tient les coudes, on s'empile en fumier d'imbécillité et de lâcheté. On se précipite au rien de la pensée pour échapper à la contamination du libertinage ou de l'incrédulité. En même temps, par un repli tout orthodoxe, on met soigneusement à profit l'impiété du siècle pour allonger quelque peu la corde des prescriptions ecclésiastiques. L'Église ayant réduit à presque rien la rigueur de ses pénitences, dans l'espoir toujours déçu d'un plus prompt retour des brebis folâtres qu'elle a perdues, les moutons demeurés fidèles utilisent, en gémissant au fond du bercail, les regrettables concessions de leur pasteur. Et toutes les pratiques suivent la même pente, l'époque n'étant pas du tout à l'héroïsme des œuvres surérogatoires. Jamais d'ailleurs il ne fut autant parlé d'œuvres. S'occuper d'œuvres, être dans les œuvres, sont des locutions acclimatées, significatives de tout bien, quoiqu'elles aient l'air, dans leur imprécision, d'impliquer au moral un protestantisme limitrophe des plus imminents. Les catholiques, en effet, entendent et pratiquent la charité, l'amour de leurs frères indigents, à la manière protestante, c'est-à-dire avec ce faste usuraire qui exige l'entier abandon préalable de la dignité du pauvre, en échange des plus dérisoires secours. Il est presque sans exemple qu'un de ces chrétiens gorgés de richesses ait pris dans ses bras son frère ruisselant de pleurs, pour le sauver en une seule fois en payant sa rançon d'une partie de son superflu. Cela ressemble même à une politique. Vous aurez toujours des pauvres parmi vous, dit l'Évangile. Et cette parole effrayante, qui condamne les détenteurs, est précisément l'occasion du sophisme de cannibales qui procure leur sécurité. Dieu a réglé qu'il y aurait toujours des pauvres, afin que les riches se consolassent pieusement de ne pas l'être, en se résignant à la nécessité providentielle de ne pas diminuer leur nombre. Il leur faut donc des pauvres pour s'attester à eux-mêmes, au meilleur marché possible, la sensibilité de leur tendre cœur, pour prêter à la petite semaine sur le paradis, pour s'amuser, enfin, pour danser, pour décolleter leurs femelles jusqu'au nombril, pour s'émotionner au champagne sur les agonisants par la faim, pour laver d'un bol de bouillon les fornications parfumées où les plus altissimes vertus peuvent se laisser choir. On serait forcé d'en faire pour eux s'il n'y en avait pas, car il leur en faut pour toutes les circonstances de la vie, pour la joie et pour la tristesse, pour les fêtes et pour les deuils, pour la ville et pour la campagne, pour toutes les attitudes d'attendrissement que les poètes ont prévues. Et il leur en faut absolument pour qu'ils puissent répondre à la pauvreté. Nous avons nos pauvres. Et d'un geste lassé, se détourner de cet agenouillé lamentable que le sauveur des hommes a choisi pour son épouse et dont l'escorte est de 10 000 anges. Il se peut que le dieu terrible, vomisseur des tièdes, accomplisse un jour le miracle de donner quelque sapidité morale à cet écœurant troupeau qui fait penser, analogiquement, à l'effroyable mélange symbolique d'acidité et d'amertume que le génie tourmenteur des Juifs le força de boire dans son agonie. Mais il faudra, c'est fort à craindre, d'étranges flambées et l'assaisonnement de pas mal de sang pour rendre digérable, en ce jour, ces rebutants chrétiens de boucherie. Il faudra du désespoir et des larmes, comme l'œil humain n'en versa jamais. Et ce seront précisément ces mêmes impies, tant méprisés par eux, du haut de leur dégoûtante vertu, mais justement désignés pour leur châtiment, saintement élus pour leur confusion parfaite, qui les forceront à les répandre. En attendant, le Christ est indubitablement traîné au dépotoir. Cette face sanglante de crucifié qui avait dardé 19 siècles, ils l'ont rebaigné dans une si nauséabonde ignominie que les âmes les plus fangeuses s'épouvantent de son contact et sont forcées de s'en détourner en poussant des cris. Il avait jeté le défi à l'opprobre humain, ce fils de l'homme, et l'opprobre humain l'a vaincu. Vainement, il triomphait des abominations du prétoire et du Golgotha et du sempiternel recommencement de ces abominations du mépris. Maintenant, il succombe sous l'abomination du respect. Ses ministres et ses croyants, éperdus de zèle pour l'idole fétide montée de leur cœur sur son autel, l'ont éclaboussé d'un ridicule tellement destructeur, nous ne disons pas de l'adoration, mais de la plus embryonnaire velléité d'attendrissement religieux, que le miracle des miracles serait, à cette heure, de lui ressusciter un culte. Le songe tragique de Jean-Paul n'est plus de saison. Ce n'est plus le Christ pleurant qui dirait aux hommes sortis des tombeaux « Je vous avais promis un père dans les cieux, et je ne sais où il est. Me souvenant de ma promesse, je l'ai cherché 2000 ans par tous les univers, et je ne l'ai pas trouvé. Et voici maintenant que je suis orphelin comme vous. » C'est le Père qui répondrait à ces âmes dolentes et sans asile. « J'avais permis à mon Verbe, engendré de moi, de se rendre semblable à vous pour vous délivrer en souffrant. Vous autres, mes adorateurs fidèles, qu'il a cautionné par son sacrifice, vous venez me demander ce Rédempteur dont vous avez contaminé la fournaise de torture et que vous avez tellement défiguré de votre amour, qu'aujourd'hui, moi-même, son consubstantiel et son père, je ne pourrai plus le reconnaître. » Je suppose qu'il habite le tabernacle que lui ont fait ses derniers disciples, 1000 fois plus lâche et plus atroce que les bourreaux qu'il avait couverts d'outrages et mis en sang. Si vous avez besoin de mon fils, cherchez-le dans les ordures. Chapitre 47. Véronique avait expérimenté la misère infinie de ce clergé, avec une rigueur proportionnée à la suréminence de sa propre vocation mystique. Elle avait enduré, dès le commencement et toute la première année, un tourment intérieur, continuel, à défier les flammes et les chevalets du martyrologe. Au début de son installation avec Marchenoir, elle avait été résolument se présenter au guichet d'un confessionnal quelconque, et, assoiffée de mépris, ambitieuse d'être foulée aux pieds, elle avait tout d'abord déclaré ceci. « Mon père, je suis une sale prostituée. » L'effet de cette parole, nullement inouï, pourtant dans ces vestibules de l'espérance où viennent tomber tant d'épaves d'âmes, avait été immédiat et confondant. On lui avait jeté le guichet au nez, par un geste soudain d'une incroyable violence. Elle ne sut jamais quel ecclésiastique avait accompli cet acte de vertu et ne voulut jamais le savoir. C'était, peut-être, un de ces jeunes prêtres caramélisés dans la blanche confiture des petites puretés inviolables, qui conçoivent la vie comme une très longue allée d'innocents tilleuls de séminaire, avec une petite statue de Marie sans tache à l'extrémité, au-dessous d'un phylactère édifiant déployé par deux chérubins, pendant que d'immaculées douillettes et d'un sexuel surplis vont et viennent, sirupeux de chasteté. Peut-être aussi était-elle tombée sur quelque mur soutanier, admirateur de Fénelon et de Nicole, et farouche ennemie du naturalisme pénitentiel. Par conséquent, expulseur impitoyable de tout repentir qui déconcertait les litotes et les hypotyposes de son formulaire. Ces deux variétés de vermine sacerdotale remplacent assez souvent, de la manière la plus effective, les filets du prince des apôtres par les filets de la morgue où vont se jeter certains misérables, au désespoir desquels il n'avait manqué, jusqu'alors, que le suggestif dégoût de les rencontrer. La vaillante fille trouva la chose un peu dure, mais absolument normale, et s'en alla, le cœur gros, à la recherche d'un intendant moins parcimonieux de la provende apostolique. Elle eut le bonheur de trouver presque aussitôt à Notre-Dame-des-Victoires un vieux praticien jésuite, mort aujourd'hui, que sa dextérité spéciale comme confesseur de libertins et de prostituées a rendu célèbre. Ce curieux vieillard de 80 ans, dont la pénétration psychologique tenait du miracle, a guéri des centaines d'âmes abandonnées. « Je ne pêche que le gros poisson, » disait-il avec sa bonhomie narquoise d'ancien pandour converti lui-même. « Que le fretin s'adresse ailleurs. Je suis le vidangeur des consciences, et j'enlève les fortes ordures. Mais je me déclare inapte aux ouvrages d'embellissement et de parfumerie. » Discernant apôtre et moraliste plein de judiciaire, il pensait que le péché habituel de la chair est surtout une névrose d'enfantillage, à la vérité terrible et mortelle, mais intraitable dans le plus grand nombre des cas, sans l'attractive bénignité d'une sorte de lactation prophylactique. L'énergie, parfois étonnante, impliquée par l'acte pur et simple de l'aveu pénitentiel, il la décrétait éminemment satisfactoire, et prenant gaillardement tout sur lui, réintégrait sur le champ les repentantes brebis, sans exiger les préalables et décourageantes corvées que le jansénisme inventa pour les mettre en fuite. Véronique fut donc accueillie par lui comme une fille prodigue, avec une joie sans bornes. Il tua pour elle le veau gras des absolutions. Mais cette bombance ne pouvait durer. Quand il s'aperçut que sa nouvelle cliente était de propos solides et ne retournerait pas comme les autres à ses vomissures, il lui déclara son insuffisance pour la guider utilement sur n'importe quel sommet et l'engagea à chercher un directeur. Ce fut l'aurore des tribulations. Personne ne comprenait rien à cette brûlée d'amour qui se diaphanéisait en montant dans la lumière. la plus tenace et la plus dure de ces épreuves, fut l'inclairvoyante opiniâtreté d'un tas de prêtres, engraissés d'identiques formules, qui s'efforcèrent de la jeter dans le découragement par le conseil, uniformément comminatoire, de se séparer de Marche Noire. La simple créature, prise dans l'étau du dilemme de son obéissance et de l'impossibilité absolue de vivre seule, aurait 20 fois perdu la tête, sans le bienheureux précédent des absolutions données, quand même, par le bonhomme qui avait accepté la côte mal taillée de cette inévitable situation, dont elle était bien certaine de n'avoir jamais abusé. Et puis, elle les exaspérait, tous ces ecclésiastiques à charnières, par son adorable simplicité, qui aurait dû les attendrir jusqu'aux larmes. La confession, qui porte ce nom grandiose de « sacrement de pénitence », est devenue, dans le coulage et le délavage actuel du christianisme, un vulnéraire si parfaitement incolore et neutre que sa force thérapeutique sur les âmes doit en général être à peu près nulle. C'est presque toujours une petite mécanique prévue, du fonctionnement le plus enfantin. Le pénitent apporte sa formule de contrition, et le confesseur lui passe en échange sa formule d'exhortation. C'est un négoce de rengaine apprise par cœur, où le cœur, précisément, n'a plus rien à faire d'aucun côté, et dont le Seigneur Dieu s'accommode comme il l'entend. Véronique ignorait profondément cette tenue de sotte parole en partie double. Elle en avait appris une autre, un peu différente, et depuis qu'elle l'avait oubliée, elle ne savait plus rien au monde, sinon le sublime de l'amour divin et de l'amour humain, fondus ensemble dans une seule flamme, aussi candide que tous les lys. Mais voilà ce qui ne pouvait être compris. Tant qu'ils voulurent, ils lui tordirent le cœur, de leurs mains salissantes et pataudes, à cette ouaille très soumise qui ne demandait pas mieux que de souffrir. Interprétant les naïvetés de sa tendresse par le zèle indiscret d'un satanique orgueil, ces bestiaux consacrés ne voyaient rien de mieux à faire que de l'accabler sans cesse de son passé, les uns avec véhémence, les autres avec ironie, et ces derniers étaient de beaucoup les plus cruels. L'ironie est, à coup sûr, l'arme la plus dangereuse qui soit dans la main de l'homme. Un écrivain, redoutable lui-même par l'ironie, nommait cet instrument de supplice la gaieté de l'indignation, fort supérieure à l'autre gaieté qu'elle fait ressembler à une gardeuse de dindons. Mais que penser de l'ironie d'un cuistre niaisement indigné de l'inobservation d'une étiquette ou d'un rudiment, et rendu tout fort par l'humilité d'un repentir que sa sottise lui fait prendre pour de l'abjection. Car la présence évangélique de l'unique pénitent sur une multitude de justes sans tache n'est, aux yeux de tout vrai suspicien, qu'une bonne blague sans application pratique. Beaucoup de prêtres utilisent donc avec succès cet heureux moyen de dégoûter de leur personne et du sacrement qu'ils avilissent. La pauvre fille, résignée à tout, en fut néanmoins crucifiée dans le fond du cœur. Silencieusement, elle savoura cette avanie comme une sainte qu'elle était, et Marche Noire n'en connut par elle absolument rien. À la fin, pourtant, elle avait mis la main sur un brave homme de missionnaire qui l'avait à peu près acceptée telle qu'elle était. L'expérience de la cohabitation fraternelle en était à son 18e mois de la plus concluante innocence. Le rouge grief qui avait attiré tant de pudiques taureaux s'éteignait enfin, et la paix venait de commencer quand arriva la foudroyante lettre de Marche Noire. Pour tout dire, une mystique de telle envergure se trouvait désorientée de n'avoir plus rien à souffrir. L'étonnante fredaine d'Holocauste qui suivit avait paru énorme à son confesseur, qui n'hésita pas à l'inculper énergiquement de zèle excessif, tout en s'avouant, dans l'intime de ses conseils, singulièrement édifié lui-même par cette chrétienne, dont il avait la prétention d'être le remorqueur. Même, il n'avait pu s'empêcher d'exprimer des craintes sur l'efficacité de l'expédient. Alléguant, non sans profondeur, l'instinct de résignation mendicitaire particulier à l'amour sensuel, qui fait convoiter aux désirants les plus superbes jusqu'aux moindres miettes de la ripaille dont ils sont frustrés. Il pensait surtout, mais sans l'exprimer, qu'aux yeux d'un spiritualiste, au transport facile, tel que Marche Noire, la splendeur morale de l'immolation devrait infiniment surpasser en illécébrant vertige la charnelle beauté sacrifiée. Chapitre 48. Au fait, qu'en restait-il exactement de cette beauté presque fameuse qui avait fait délirer des gens austères, chargés de prudence comme des chameaux, et qui, même, assurait-on, avait autrefois coûté la vie à deux hommes? Les ruines de cette Palmyre étaient-elles décidément répulsives à tout enthousiasme? Un artiste profond qui eût contemplé Véronique dans sa prière n'aurait assurément pas tranché du côté de l'affirmative. Sans doute, elle était rompue. Désormais, l'harmonie du visage de cette épervière d'amour, qui n'avait fait, après tout, lorsqu'elle était devenue dévote, que spiritualiser ses lapins et renoncer, pour la colombe, à ses indigestes ramiers. Hygiénique substitution de proie, qui ne pouvait changer essentiellement la physionomie. Il avait fallu pour cela la mutilation, la chute violente de la partie supérieure du rostre aquilin sur son assise démantelée et la dépression labiale d'une bouche dont l'arc terrible, qui avait vidé tant de carquois, enfin détendu, s'allongeait en blême rictus de l'une à l'autre commissure. Défigurement bizarre et triste, qui faisait conjecturer la fantasmatique juxtaposition d'une moitié de vieux visage à la cassure inférieure de quelque sublime chapiteau humain. Mais les traits, demeurés intacts, semblaient être devenus plus beaux, de même que les membres épargnés sont faits plus robustes, paraît-il, après une amputation. Il y avait surtout les yeux, des yeux immenses, illimités, dont personne n'avait jamais pu faire le tour. Bleu, sans doute, comme il convenait, mais d'un bleu occulte, extraterrestre, que la convoitise au télescope d'écaille avait absurdement réputé gris clair. Or, c'était toute une palette de ciels inconnus, même en Occident, et jusque sous les pattes glacées de l'ours polaire, où, du moins, ne sévit pas l'ignoble intensité d'azur perruquier des ciels d'Orient. Suivant les divers états de son âme, les yeux de l'incroyable fille, partant quelquefois d'une sorte de bleu consterné d'iris lactescent, éclataient une minute du cobalt pur des illusions généreuses, s'injectaient passionnément d'écarlate, de rouge de cuivre, de point d'or, passaient ensuite au réséda de l'espérance, pour s'atténuer aussitôt dans une résignation de gris lavande, et s'étendre enfin, pour de bon, dans l'ardoise de la sécurité. Mais le plus touchant, c'était, aux heures de l'extase sans frémissement, de l'inagitation absolue familière au contemplatif, un crépuscule de lune diamanté de pleurs, inexprimable et divin, qui se levait tout à coup au fond de ses yeux étrangers, et dont nulle chimie de peinturier n'eût été capable de fixer la plus lointaine impression. Un double gouffre, pâle et translucide, une insurrection de clarté dans les profondeurs, par-dessous les ondes, moire et d'oubli, d'un recueillement inaccessible. Un aliéniste, un profanateur de sépultures, une brute humaine quelconque, qui, prenant de force à deux mains la tête de Véronique, en de certains instants, aurait ainsi voulu la contraindre à le regarder, eût été stupéfait jusqu'à l'effroi de l'inattention infinie de ce paysage simultané de ciel et de mer qu'il aurait découvert en place de regard, et il en eût emporté l'obsession dans son âme épaisse. « Ce sont, disait Marche Noire, les yeux d'une aveugle qui tâtonnerait dans le paradis. Il avait fallu ses yeux inouïs, faits comme des lacs, et qui paraissaient s'agrandir chaque jour pour excuser l'absence paradoxale, à peu près complète, du front, admirablement évasé du côté des tempes, mais inondé, presque jusqu'aux sourcils, par le débordement de la chevelure. Autrefois, du temps de la ventouse, cette toison sublime, qui aurait pu, semblait-il, défrayer 50 couchers de soleil, surplombait immédiatement les yeux de sa lourde masse, et c'était à rendre fou furieux de voir le conflit de ces éléments. Un incendie sur le Pacifique. Quand la ventouse n'exista plus, cette houle flamboyante reflua comme elle put, dans tous les sens, pressée, tassée en bandeaux, en nattes, en rouleaux, en paquets, écartelant les épingles, mettant les peignes sur les dents, tombant onéreusement sur les épaules et quelquefois sur le bas des reins, jusqu'à ce que, tordue en un despotique et monstrueux chignon, elle put enfin se tenir tranquille, pour l'amour de Dieu. Il y eut alors un front précaire, une étroite bande de front, qui parut incommensurable en longueur d'une tempe à l'autre, et ce fut une nouvelle sorte de beauté, presque aussi redoutable que la première. Maintenant, c'était un troisième aspect navrant et inexplicable. Les yeux paraissaient avoir grossi, la tête, réduite de moitié, fuyait honteusement. Le front dégarni était terrible et semblait porter la marque de quelque infamante punition. Le nez, par bonheur, avait échappé à toute injure. Légèrement aquilin et de dimension plausible, un peu plus fin peut-être à l'extrémité qu'on eût osé l'espérer de cet irresponsable organe de sensualité. Il était flanqué de narines étonnamment mobiles, significatives, pour certaines femmes, d'une cupidité sans mesure. Providentiellement instituée en manière de contrepoids à l'héroïsme masculin, dont cette particularité physiologique est également un pronostic. Quant à la bouche, il n'y avait plus à en parler, hélas. Elle avait été dangereuse, autant que toutes les gueules et tous les suçoirs de l'abîme. Elle avait été cette fosse profonde où Salomon affirmait que doivent tomber ceux contre qui le Seigneur est en colère. Le baiser de ses lourdes lèvres, bestialement exquises, cassait les nerfs, fripait les moelles, détraquait les cervelles, dévissait toutes les cuirasses, déboulonnait jusqu'à l'avarice, transformait les aliénés en idiots et les simples imbéciles en énergumènes. Un syndicat de faillite était embusqué sous la langue de cette bouche, et 32 bureaux de pompes funèbres ficelaient leurs dossiers à l'ombre caniculaire de ses dents. Quand elle crachait, la terre avait envie de devenir poissonneuse comme la mer, et l'océan lui-même aurait à peine pu répondre en se tuméfiant d'orgueil. L'écume de mes naufragés n'est pas moins amère. Le démon du stupre, depuis longtemps exproprié de cet ancien patrimoine, venait enfin de s'éloigner irrévocablement de ses ruines, au milieu desquelles, désormais, ne restait plus même un humble chicot où il pût s'asseoir. Les lèvres, rentrées de force, avaient perdu forme et couleur, et c'était bien, réellement, le plus notable déchet de cette cariatide de lupanar, transformé en un pilastre éclatant de la tour d'ivoire. Cependant, le teint de l'ensemble du visage était demeuré. C'était toujours la même combinaison pigmentaire de chamois, de capucine, de vermillon, de bistre et d'or, imperceptiblement atténuée d'un 40e de reflet lunaire. En somme, Véronique avait à peu près manqué son coup et n'était pas devenue moins belle qu'avant. La dilapidation d'une partie de ses richesses ayant proportionnément accru la valeur du fertile potager d'amour que l'infortunée marche noire avait si malencontreusement ensemencé de l'impartageable concupiscence du ciel. Chapitre 49. Les événements ont ceci de commun avec les oies qu'ils vont en troupe. Tout être non absolument dénué d'observation a pu le remarquer. Il est vrai que la curiosité s'arrête là, d'ordinaire. Nul n'implore une explication de cette loi. L'inexistante fontaine du hasard devant suffire à l'étanchement de toutes les soifs du troupeau pensant. Ce proverbe, « un malheur n'arrive jamais seul », est l'unique monument de l'attention ou de la sagacité des hommes sur l'une des particularités les moins négligeables de leur histoire. Il est pourtant bien assuré que les événements, heureux ou malheureux, quelle que soit l'illusion de leur taille, semblent s'appeler les uns les autres, aussitôt qu'ils naissent, par d'irrésistibles clameurs. Ils accourent alors de partout, émergeant des trous de la terre ou tombant des monts de la lune, pour l'éternelle stupéfaction d'une race tirée du néant, qui ne sut jamais rien prévoir et qui ne s'attend jamais à rien. On a fini par observer, d'une manière à peu près certaine, que l'union physique de deux individus de sexe différent a pour effet probable l'apparition d'un troisième de même nature, à l'état rudimentaire. Cette quasi-certitude est l'un des fruits les plus savoureux d'une expérience de 60 siècles. Mais qui donc s'occupe du mystère autrement profond de la sexualité métaphysique des événements de ce monde, de leurs alliances rigoureusement assorties, de leur lignée au type fidèle, de leur solidarité parfaite? Toute la famille se précipite au vagissement du nouveau-né, et Dieu sait si elle est innombrable, puisque les événements ne meurent jamais et qu'ils continuent toujours de faire des enfants. Le premier imbécile venu, à qui quelque chose arrive, est pour un instant le puits de vérité où tout un peuple formidable descend boire. Toutes les normes se penchent vers lui, toutes les règles, toutes les lois, toutes les volontés occultes s'accoudent en polymnie sur l'inconsciente margelle de bêtises qui ne se doutent même pas de leur présence. Il s'en fallait que le verdier fût un imbécile, et il savait trop qu'il était arrivé quelque chose. Cependant, il s'étonna de tomber, immédiatement après avoir quitté Marche Noire, sur un personnage qu'il avait eu la douceur de ne pas rencontrer depuis des mois. Alcide Lerat, historien et littérateur français, ainsi qu'il lui plaît de se désigner lui-même. Ce fut, pour l'attrister convive de tant de capiteuses ribottes de douleur, une commotion presque physique, à la manière d'un pressentiment funèbre, de revoir tout à coup, en un tel moment, ce fantoche sordide, qui trottait, le nez au vent, comme un putois cherchant à dépister une charogne. Cet Alcide Lerat, fort connu dans le monde des journaux, est une sorte de Benoît Labre littéraire, sans sainteté, dont le panégyrique posthume serait une besogne à faire trembler les décrasseurs d'auréoles les plus audacieux. Vivant exclusivement d'aumônes récoltées chez les gens de lettres, qui l'amusent de ses calomnies ou de ses médisances et qui le reçoivent dans des courants d'air, le drôle fétide, heureusement incapable de s'enrhumer, promène infatigablement sa carcasse de l'un à l'autre crépuscule, colportant ainsi dans le pantalon d'un romancier qu'il a diffamé la veille, chez un rédacteur en chef qu'il vient de couvrir d'ordures et qui lui donnera peut-être 20 sous, les basses conjectures de son déshonorant esprit sur la vie privée d'un poète dont il a fini tous les chapeaux. Il se venge par là d'être frustré de la première place qu'il n'a jamais cessé de revendiquer depuis le succès de son fameux pamphlet « Ménage et finances de Diderot ». Ce factum sans talent, mais d'une érudition de détails exaspérante, comme la vermine sur le pelage des adorateurs de philosophes, produisit en effet une vive émeute d'opinion dans les feuilles publiques, il y a 30 ans. Les ouvrages postérieurs d'Alcide Lerat ne valent pas, il est vrai, la goutte d'encre qu'on dépenserait pour en écrire le titre. N'importe. Assuré d'être le plus immense génie des siècles, il pense de bonne foi que tout lui est dû et que sa seule présence est un honneur, une occasion de ravissement que rien ne pourrait payer. « Je parle trop, dit-il. On prend des notes. En conséquence, il rançonne tant qu'il peut ses disciples, dont les largesses, quelque démesurées qu'on les supposât, ne pourraient jamais avoir, en raison des cataractes de joie répandues sur eux, que le faux poids de l'ingratitude. Tout à vous, sauf Chaussette, écrivait-il un jour à l'un d'eux qui avait oublié cet unique article dans l'abandon filial d'une complète défroque. Parole admirable et définitive, dont le destinataire, espèce de va-nu-pied intellectuel, ne sentit pas l'ironie profonde. Le nom de ce dangereux cynique est tellement ajusté à sa physionomie qu'il est impossible de présenter l'usufruitier sans s'exposer à l'inconvénient de paraître un farceur de table d'hôte. Le rat est évidemment sa bête, à moins qu'il ne soit la bête du rat, ce qui pourrait être soutenu comme une opinion probable. Le nez en pointe de betterave très aiguë, tirant à lui toute une mince figure en chiasse d'insectes, planté d'un aride taillis de poils grisonnants, échevauché d'une paire de petits yeux brillants et inquiets, a concité la fureur d'un dogue. Ce dernier trait détermine et fixe instantanément l'analogie. Le trottinement perpétuel, l'incurvation sacristine des vertèbres supérieures et le coutumier reploiement des bras sur de plates côtes souvent menacées n'y ajoutent que fort peu de choses. Le verdier connaissait l'animal depuis longtemps. Il était même inexplicablement honoré par lui d'une sorte de considération ou d'estime. Le rat, qu'il avait à peu près jeté à la porte deux ou trois fois et qui avait renoncé à l'expérience inutile de se présenter de nouveau, ne croyait pas néanmoins devoir le priver, quand il le rencontrait, de quelques nutritives minutes d'entretien, dont le verdier se fût admirablement passé, ce jour-là surtout. Il avait les meilleures raisons du monde pour écarter ce fâcheux, qu'il soupçonnait fort d'avoir soufflé d'immondes calomnies sur le compte de son ami, dans l'indigente main duquel il avait souvent pâturé la glandée d'un petit écu. Une fois même, il lui donna le placide conseil de profiter de son excellente vue de rongeur pour s'écarter soigneusement de tous les chemins de marche noire. Il n'est pas trop patient, voyez-vous, mon cher monsieur Alcide, et il serait très capable de vous régaler de vos propres oreilles. Je vous en avertis en frère. Pensez-y bien. Dans la situation actuelle de son esprit, une telle rencontre, si soudaine, lui fit l'effet d'un présage des plus néfastes. Il fut un moment sur la pente de lui décerner une raclée complète dont le souvenir fut extrêmement durable. Mais c'eût été battre une vieille femme, et d'autre part, il craignit le ridicule de prendre la fuite. Il ne tarda pas à reconnaître qu'en effet, la rencontre n'était pas absolument vaine et pouvait avoir d'assez graves conséquences.